La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Il suffit de lire un scolastique pour en lire tous. Est-ce vrai? J'ai parodié le point de vue de Montesquieu. Il suffit de lire un seul scolastique et vous les avez tous lus. Ils se copient, cela est inutile. Alors, est-ce possible? Comment envisager le dialogue entre une philosophie réaliste et d'autres philosophies? Maritain pose la question dans Raison et raison, 1947, et s'amuse à imaginer ce que un pragmatiste pourrait dire sur le réalisme et comment il pourrait faire un petit déplacement, et vice-versa, comment un thomisme pourrait faire un petit déplacement après avoir émis une sorte de préjugé. Maritain pose la question à partir de la différence. La différence, c'est l'être et le devenir, un système, on va dire, hegelien et pragmatiste, qui s'articule sur une autre différence, celle de la vérité, qui est inhérente à l'être, parce que l'intelligence, elle est faite pour l'être, et donc elle a une dimension de contemplation, c'est-à-dire de stabilité. Elle va avoir une assise, et la dimension métaphysique pour Maritain est une contemplation. À l'opposé, le devenir ne peut pas s'asseoir sur la vérité, mais sur la vérification. Ce qui fait qu'on a finalement deux chiens ou deux chats en faïence qui se regardent de manière très radicalement opposée de voir le monde. Comment sortir de cette aporie? Maritain va essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire plus profond, en se demandant quelle est l'intuition profonde du pragmatisme. Il dit « L'intuition centrale qui est au cœur du pragmatisme, c'est l'intuition de la réalité, du temps et du devenir, comme immanente à l'expérience et au conditionnement humain de l'effort de l'entendement. » Alors ici, on a un mot clé de la philosophie de Maritain. C'est comme immanente à l'expérience et au conditionnement. Le plan conditionnant, pour Maritain, c'est le plan finalement pratique. Et le plan déterminant, qui est au-dessus, c'est le plan, j'allais dire de la spéculation, c'est le plan où s'articule quelque chose qui est unifiant et qui va s'incarner de différentes manières dans le plan du conditionnement. Et dès lors, le pragmatiste voit cette intuition de la réalité du temps comme immanente, c'est-à-dire intriquée, à l'expérience et au conditionnement humain. Il ne va pas détacher le temps de ce plan conditionnant. La philosophie pragmatiste, poursuit Maritain, n'a sa vraie situation ni au niveau de la métaphysique, mais c'est une évidence, ni au niveau de la nature, puisqu'on reste au plan conditionnant, mais au niveau de l'éthique et de la philosophie morale, ce que je vous ai suggéré en parlant de plan pratique. Je veux dire, en tant qu'elle embrasse le domaine tout entier des matières philosophiques, et spécialement le procès de la connaissance du point de vue pratique qui est propre à l'éthique, c'est-à-dire à la science des actes humains. Comment donc un pragmatiste pourrait-il interpréter le thomisme? Essaierai-je maintenant de tenir le rôle d'un philosophe pragmatiste? Je ne me sens ni autorisé à le faire, et pour cause, parce qu'on peut peut-être fausser hein, les choses, on n'est pas de l'intérieur, ni assuré de réussir. Tentons néanmoins d'imaginer comment un pragmatiste, à supposer qu'il respecte la démarche méthodologique que nous sommes en train d'examiner, prendrait une vue du thomisme conformément à son propre système de référence et afin, bien sûr, de rendre intellectuellement justice au thomisme dans la mesure de ses moyens. On joue le jeu, mais pas la caricature. En ce qui regarde l'intuition centrale qui est au cœur de la philosophie thomiste et dont elle vit, je ne crois pas trop m'avancer en disant que, comme thomiste, je pense avoir quelque idée d'elle. Cette intuition centrale est celle de la foncière réalité intelligible de l'être, comme imprégnant analogiquement toute chose connaissable et spécialement de l'existence comme acte de tout acte et perfection, de toute perfection. Là, vous avez un creuset aristotélicien, la perfection, c'est l'acte. Aristote oppose la puissance et l'acte, et c'est l'acte, c'est-à-dire le fait que ce soit incarné, que ce soit visible, que ce soit actué, qui est la perfection. La puissance n'est pas une perfection. Donc ici, je reprends la formule de Maritain, l'existence comme acte de tout acte et perfection de toute perfection. Cette intuition n'a pas de place dans l'univers de pensée du pragmatiste, qui est, là, Maritain ouvre une parenthèse, j'ose le dire, moins hospitalier que celui du thomiste. Forcément, parce que celui du thomiste est, se situant au plan spéculatif, avec la métaphysique, est plus large. J'allais dire qu'il est plus haut, c'est comme un aigle. L'aigle monte, et ben, il verra plus de paysages. Mais vous mettez un moineau, le moineau vole, mais sa surface de champ est moins large. Le plan spéculatif est plus large que le plan pratique, qui ne s'occupe que des actes. Donc forcément, il y a une réduction hospitalière, on va dire, dans le champ pragmatiste. Maritain continue le jeu. Si néanmoins, le pragmatiste essaie de reconnaître sa valeur, ou plutôt d'en trouver quelque équivalent dans sa propre perspective, j'imagine qu'il dira à peu près dans les termes suivants que pour lui, l'intuition centrale de la philosophie thomiste et l'intuition du pouvoir architectonique, de la cohérence interne et de la rigueur logique universellement dominatrice de la raison. Ce serait en tout cas plus équitable que de chercher dans le thomisme, comme font certains pragmatistes que j'ai connus, le spectre de l'autoritarisme et de l'inquisition. Donc, vous voyez comment on peut sortir de la caricature, de la position de deux chiens de faïence qui se lancent des préjugés à la tête. On sort de l'autoritarisme, dogmatisme, l'inquisition, etc., qui est celui du tout un commun qui parle du thomisme, sans le connaître. Et on essaie d'entr'ouvrir une porte, d'entrebâiller un dialogue, une porte pour faire un dialogue. Donc ici, vous le voyez, ce serait l'intuition du pouvoir architectonique. On parle finalement d'une architecture des plaques, l'architectonique des plaques, de la terre, de la cohérence interne et de la rigueur logique, universellement dominatrice de la raison étant finalement la faculté qui permet de tout expliquer. Et là, c'est un dénominateur commun entre un pragmatiste qui pourrait souscrire à cette définition du thomisme et le thomiste. Maritain poursuit le jeu. Vous allez voir que c'est très intéressant pour envisager un dialogue à notre époque où on a tendance à cloisonner les espaces. Et pour ce qui est de la place ou de la situation où, conformément au système pragmatiste de référence, l'inspiration et les principes spécifiques de la philosophie thomiste recevraient, même une fois dûment transposée, une signification légitime, je sais bien qu'une telle place n'existe pas dans l'univers de la pensée du pragmatiste. Mais elle pourrait exister pour lui hors de cet univers, dans un espace imaginaire, à la manière d'un « comme si » ou du monde intelligible de la raison dans la philosophie de Kant. J'imaginerai donc que tout de même que le thomiste dit au pragmatiste « votre philosophie n'est pas une philosophie, mais une philosophie vue dans le miroir déformant d'une perspective purement éthique. » Vous me suivez toujours, donc purement pratique. Vous voyez qu'il y a un jeu de pratique à pragmatique. C'est l'éthique qui permet le lien. Ainsi, bien qu'en termes sans doute moins gracieux, le pragmatiste dirait au thomiste « Votre philosophie n'est pas une philosophie, mais un système de mythes inintelligibles platonisants, une mythologie de la raison qui transpose la réalité en une série de types ou modèles rationnellement organisés qui auraient une signification légitime si le pouvoir abstractif de l'esprit humain était aussi un pouvoir intuitif et si l'intelligence était capable de percevoir les essences, les natures et les structures ontologiques dans et par les données de l'expérience sensible. » Donc voyez, l'imagination comme faculté d'ouverture de porte, faculté de dialogue. Après tout, là, on ne peut pas raisonner par l'argument logique, par une démonstration, qu'elle soit déductive ou inductive. On peut accepter d'imaginer. Et qui nous en donne la clé? Mais vous voyez ce que Marita a dit, c'est le als ob, le comme si de Kant, dans la critique de la raison pure. On pose un système, alors c'est vraiment le génie kantien, hein, vu par Maritain comme une imagination, mais on tire de cette posture moderne, c'est la modernité même, la possibilité d'un dialogue. Et c'est très intéressant parce que, pourquoi pas? Eh bien, Maritain conclut. Pourtant, la possibilité même d'un tel système rationnel de mythes, pour user du langage dont notre interlocuteur se servirait probablement, pose, me semble-t-il, bien des problèmes au pragmatiste, de son propre point de vue. Car ce système, entre guillemets, de mythes rationnels et cohérents en lui-même et au moyen de son propre lexique de signes, il est capable de proposer une synthèse dans laquelle tous les degrés du savoir humain, et spécialement la physique moderne et la connaissance expérimentale de la nature, trouvent une justification et dans laquelle bien des vues chères aux pragmatistes sont sauvées, bien qu'elles soient interprétées selon un autre système de référence. Donc ça pose un problème parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le champ de vision ou d'accueil du thomisme est plus large que le champ de vision et d'accueil, d'hospitalité, du pragmatiste. Maritain pose la question, et comment cela est-il possible? Est-ce qu'une enquête plus approfondie sur la valeur instrumentale de l'abstraction et de la raison n'apparaît pas ici comme convenable? En essayant de prendre une vue réelle de la philosophie thomiste et de lui rendre justice de son propre point de vue, le pragmatiste élargirait certainement les frontières de son propre système, l'enrichirait de l'intérieur et découvrirait de nouvelles potentialités dans ses propres principes, en y cherchant en particulier comment il pourrait mieux interpréter et sauver la fonction et le pouvoir de la pensée abstraite. Donc, s'agit-il d'une annexion du pragmatisme au thomisme? On pourrait, si on a été de mauvaise foi, le dire. Il s'agit plutôt de dire qu'on ne peut pas faire une philosophie uniquement pratique. Le pragmatiste s'arrête donc à la vérification, à la dimension uniquement pratique. Et pour Maritain, il faut sauver quoi? La fonction et le pouvoir de la pensée abstraite. C'est absolument indispensable parce que c'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'intelligence avec un grand I. Et cette intelligence, elle est une parcelle ou une imitation ou une image de l'intelligence de Dieu. Donc pour Maritain, il est impensable de ne pas utiliser cette capacité abstractive qui fait que l'homme est l'homme et qui n'est pas une fourmi améliorée ou une abeille transposée. Alors, pourquoi envisager absolument ce dialogue entre philosophies qui paraissent éloignées? Pourquoi prendre le risque de dire le thomisme annexe les autres? Pourquoi défendre la fonction intellective, la fonction abstractive de l'homme? Maritain donne une conclusion dans Raison et raison de 1947. Il s'agit du respect de l'intelligence. Si nous n'aimons pas la pensée et l'intelligence d'autrui, en tant qu'intelligence et en tant que pensée, comment prendrons-nous la peine de découvrir quelle vérité elle nous apporte, tandis qu'elle nous semble déficiente ou égarée, et en même temps de libérer ces vérités des erreurs qui les parasitent, pour les réinstaurer dans une systématisation entièrement vraie? car la justice intellectuelle est due aux philosophes qui sont nos compagnons, mais tout d'abord à la vérité. Ici, deux choses. C'est le respect de l'intelligence, c'est-à-dire on prend la peine de découvrir des vérités qu'il y a partout. Et Maritain a une autre formule à ce propos, il parle de vérités cachées. Il y a toujours des vérités dans tous les systèmes. Elles sont cachées et il faut les désenclaver, on va dire, les désenganguer, j'allais dire. Elles ont une gangue autour, de boue, de concrétion, ce que vous voulez, comme un diamant qui est au fond de la terre, et les désenganguer. Alors évidemment, vous comprenez tout de suite que l'argument qu'on va pouvoir entendre, c'est « mais au nom de quoi vous dites qu'il y a des vérités cachées ? Quel est votre critère pour dire que ça sont des vérités et que c'est vous qui les dites enganguer, enclaver, sale, caché ? Pourquoi ? Selon quels critères ?» Ben là, c'est un autre débat, un autre sujet. C'est la question de la philosophie chrétienne, une philosophie qui a comme fondement des principes de théologie et d'une théologie qui repose sur la foi. Donc là, on est dans toute une autre anthropologie, j'allais dire, qui demande au soi, finalement, d'être illuminé par la grâce, c'est-à-dire par une vie de pratique de la foi. Mais on a cette première idée donc de vérité cachée. La deuxième idée, c'est la justice intellectuelle qui est due aux philosophes qui sont nos compagnons, donc les écouter. Mais cette justice est transcendée par une valeur plus haute qui est celle de la vérité. Et là, il ne s'agit pas de christianisme pour dire vérité cachée selon un critère que l'évangile pourrait donner. Il s'agit de cohérence. Et cette cohérence, on la trouve chez Aristote. Aristote est le disciple de Platon. Il a tous ses amis dans l'école de Platon. Et il prend sa distance vis-à-vis du maître qu'il a écouté pendant 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'il va se séparer de Platon au nom de la vérité. La vérité est plus haute que les amis. Et tant pis si on doit dire des choses de l'ordre de la controverse. Donc ici, on a cet hommage rendu à la vérité et qui ne tient pas à une vérité, une philosophie chrétienne, mais qui tient à une cohérence des exigences même de l'intelligence. Maritain conclut, en d'autres termes, ce qui importe essentiellement, c'est d'avoir le respect de l'intelligence, même si elle est engagée dans des tentatives où il nous semble qu'elle manque le but, et d'être attentif à dégager et délivrer chaque semence de vérité, où qu'elle puisse se trouver. Admirable, regardez. Elle est engagée dans des tentatives où il nous semble qu'elle manque le but. Et d'être attentif à dégager et délivrer chaque semence de vérité, où qu'elle puisse se trouver. Il y a une bonté. Une bonté par rapport à la vérité chrétienne. Et il y a aussi une analogie qu'on perçoit un tout petit peu pour les hébraïsants. C'est dans la notion de manquer le but. La notion de manquer le but, c'est le terme même en hébreu qui décrit le péché. Le péché rate la cible, en quelque sorte, il manque le but. Donc ici, il y a une analogie entre quelque chose de pécamineux et la pensée, l'intelligence, qui elle doit être aussi rendue à sa pureté. Maritain créera un petit feuillet absolument superbe, c'est la condition de l'homme blessé, la condition charnelle de l'homme blessé. Il écrira ça dans Approche sans entrave, une œuvre posthume, et il insistera sur cette blessure qui concerne aussi l'intelligence. Alors, pour conclure sur cette émission du rapport à la vérité et des portes ouvertes, entrebâillées plutôt que fermées, je reviendrai sur une réponse que Maritain va faire à Jean Cocteau. Il s'agit de la lettre publique de 1926 qui s'appelle « Réponse à Jean Cocteau ». Et dans cette lettre, Maritain articule « Vérité et amour » en répondant à un immense poète hein, qui est aussi un dessinateur hors du commun. Vous le connaissez plus que moi pour avoir lu ses pièces. « J'ai dû commencer par la controverse. Elle m'ennuie de plus en plus. » Je sais les erreurs qui ravagent le monde moderne et qu'il n'y a de grand que sa douleur. Mais je respecte cette douleur. Je vois partout des vérités captives. Quel ordre de la merci se lèvera pour les racheter? Notre affaire est de chercher le positif en toute chose, d'user du vrai, moins pour frapper que pour guérir. Il y a si peu d'amour dans le monde. Les cœurs sont si froids, si gelés, même chez ceux qui ont raison, les seuls qui pourraient aider les autres. Il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux, sans compter les esprits mous au cœur sec. Le monde n'est presque fait que d'esprits durs au cœur sec et de cœurs doux à l'esprit mou. J'ai été rivé à la pensée la plus dogmatique et la plus tranchante, la moins capable de conciliation et d'atténuation, à une doctrine absolument dure, pour essayer, en contemplant notre temps au passage, non de disperser, mais d'assumer, de réconcilier. C'est que j'ai confiance en la vérité. Universelle comme l'être, il faut bien qu'elle recueille, partout, les fragments dérobés à l'unité. Elle seule le peut. Les esprits ne se reconnaissent que dans la lumière. Plus elle est pure et divisée d'avec l'ombre, plus elle unit. L'office principal du thomisme a été et restera toujours d'ordre sacré. Élevé sur les tours de l'Église, il défend théologiquement la vérité divine contre toute agression d'erreur. Maintenant, le pape lui a commandé de descendre aussi dans la rue, au scandale des gens raisonnables qui pensaient l'avoir bien classé dans leur dossier, à sa fiche chronologique, bien sûr que la scolastique chrétienne n'avait rien de plus en elle que la scolastique musulmane ou la scolastique bouddhiste. Le temps est venu pour lui de travailler philosophiquement dans le profane, de promener à travers le monde sa jeunesse renouvelée, sa curiosité, sa hardiesse, sa liberté, et de rassembler ainsi l'héritage dispersé de la sagesse. J'espère vous avoir montré que l'affirmation de Montesquieu, selon laquelle il suffit de lire un scolastique pour les avoir tous lus, parce qu'ils disent tous la même chose, est fausse, erronée. Maritain écrit ces phrases splendides à Jean Cocteau en 1926 dans une lettre publique, et on est après l'encyclique Eterni Patris, fin 19e siècle, où Léon XIII promeut le thomisme, un peu comme rempart contre le modernisme, certes, mais avec une vision très profonde, c'est d'aller dans les rues, comme dit Maritain, d'envahir le profane, de se renouveler. On va voir une édition, l'édition léonine des œuvres de saint Thomas d'Aquin. On va voir des extraits qui vont pouvoir, selon les questions, être en petits fascicules, plus maniables que la grande somme. On va voir tout un effort d'accès au texte, de traduction. Et ça, c'est absolument louable. C'est un renouvellement total. Maritain n'a pas une moindre place dans ce renouvellement. Avec Gisson, ils sont les deux philosophes laïcs qui promeuvent le thomisme au XXe siècle, non seulement en France, mais au Canada, à Toronto avec Gisson, et puis partout dans le monde entier, en Argentine avec la philosophie chrétienne qui va se développer dans l'Amérique du Sud et en Italie par Maritain. Donc ici, on voit le rayonnement du thomisme dans le XXe siècle. Alors certes, la Deuxième Guerre mondiale a mis une fracture. On aura du mal à voir émerger le thomisme dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais il est peut-être souterrain, mais pas encore enterré.